Sacha, tu m'entends?
Ouais.
On a l'antenne dans 30 secondes. Un petit essai de voix.
Paris-Bordeaux-le-Mans, papa. Ça va là pour vous?
Ça va.
Bon, écoute, moi je suis prêt pour l'antenne. Tout le monde est là dans le bas, ils sont en train de s'installer.
Est-ce qu'un micro dans le sas, il a bougé?
Non, mais de toute façon, il n'y a personne dans le sas. Donc, vous avez le son de la salle d'en bas? Ouais.
Pas le son, mais le retour est pas génial.
Oui, mais moi non plus, j'ai un retour très faible ici. Donc, vous pouvez augmenter le son, s'il vous plaît?
On va essayer.
Merci. Écoute, dans le bas, ils finissent de se mettre en place. Donc, moi, de toute façon, j'ai pas prévu de commencer par eux. J'ai deux interviews et ensuite l'enregistrement du juge. Donc,
Juridiction. Nous retrouvons Sacha Deniro pour un reportage en direct du groupe psychiatrique de la Drive.
Merci d'être à l'écoute de France Culture pour une émission exceptionnelle en direct du camp psychiatrique expérimental de la Drivna, plus exactement de sa gigantesque section de haute sécurité, une véritable ville fermée à l'intérieur du camp. Nous allons assister en direct à un procès qui se déroule dans un cadre judiciaire inhabituel, puisque les malades mentaux incarcérés à la Drivna en sont les uniques organisateurs et les uniques participants. La section de haute sécurité de la Drivna est connue pour ses expériences de psychiatrie en autogestion, mais c'est la première fois qu'un procès va se tenir formellement entre les malades, sans aucune intervention du personnel et selon toutes les règles de la procédure. En effet, l'accusé sera assisté d'un défenseur et il y aura un jury. 12 individus tirés au sort parmi plusieurs milliers de détenus. Plusieurs milliers et même plusieurs dizaines de milliers, je crois. Nous allons pour commencer écouter le major Beregoyan, qui dirige le camp et coordonne les expériences dans la section de haute sécurité.
Bonjour Sacha Deniro. Tout d'abord une précision, le nombre de malades dans la section de haute sécurité est à peu près de 83 000.
Plus de 80 000 détenus, c'est énorme.
Oui, nous manquons de place.
Docteur Beregoyan, c'est la première fois que se déroule une telle expérience dans le camp que vous dirigez.
Avant de parler de cette expérience, j'aimerais rappeler qu'à la Drivna, nous préférons parler de malades, ou de pensionnaires, plutôt que de détenus. Notre politique est d'accueillir nos pensionnaires en régime de semi-liberté surveillée et de les laisser vivre ainsi leur incarcération en toute tranquillité jusqu'à leur mort. Personne ne peut sortir avant le décès, bien entendu. Et les visites sont interdites. Les contacts avec l'extérieur sont très réduits. C'est pourquoi nous tenons à ce qu'à l'intérieur de nos murs, les arrivants s'intègrent immédiatement et ne regrettent pas le monde qu'ils ont quitté. Le camp de la Drivna est une terre d'asile pour ceux qui ont été exclus de la société normale en raison de leur déviance ou de leur crime. Nous surveillons tout ce petit monde, cela va sans dire. Nous avons partout des plateformes de surveillance et depuis les plateformes, nous intervenons pour garantir l'ordre public, la salubrité et la sécurité. Mais pour le reste, nos pensionnaires s'organisent de façon autonome. Le système médical est lui aussi entièrement autogéré. Les pensionnaires se soignent eux-mêmes. Ils élisent un psychothérapeute dans chaque dortoir. Nous leur assurons un approvisionnement en nourriture, en médicaments et en vêtements, et ils bénéficient d'une assistance logistique élémentaire, mais pour l'essentiel, ils doivent compter sur leurs propres forces. Et ils se débrouillent très bien. La Drivna est une sorte de société communautaire et égalitaire. Ceux qui ne s'y adaptent pas sont rapidement éliminés. La plupart s'adaptent sans se poser de questions et en tout cas sans faire d'histoire. C'est une société hermétique, différente de ce qu'on trouve ailleurs hors les murs, mais c'est une société qui a trouvé elle-même ses règles et qui fonctionne.
Et le procès d'aujourd'hui ?
Il est naturel que les pensionnaires aient songé à construire un édifice juridique qui limite les débordements et les dérives. Il y a déjà eu dans le passé de nombreux procès expéditifs, des exécutions sommaires et des lynchages, mais c'est la première fois que la justice va s'exercer ici d'une façon aussi organisée.
Docteur Beregoyan, je vous remercie. Je me tourne à présent vers le docteur Agatienko, qui a suivi de près la naissance de ce tribunal. Docteur Agatienko, nous nous trouvons en ce moment en hauteur, dans une cabine de contrôle comme il en existe partout dans le camp, et qui permettent au personnel de surveiller les pensionnaires sans être en contact direct avec eux. Depuis cette cabine, nous dominons une grande salle avec des tables et des chaises. Avant d'accueillir un tribunal, ce devait être sans doute une salle de réunion.
En temps normal, c'est un réfectoire.
Ah, un réfectoire, très bien. Aujourd'hui, c'est devenu un prétoire. Docteur Agatienko, pouvez-vous nous dire qui sont les personnes qui se sont installées en dessous de nous dans cette salle ?
Ils se sont répartis un peu au hasard autour de Tassili, mais il y a quand même une logique. Tassili est l'accusé, cet homme assez corpulent en survêtement noir. Vous voyez ? C'est Tassili. Juste à côté de lui, c'est son défenseur, Jean Calcutta. Un type plutôt inoffensif en apparence, mais il a un dossier d'assassin comme les autres. Et le juge, vous le repérez ? Marek Brisbane. Il ne fait pas face à Tassili. C'est l'homme qui a une casquette rouge, celui qui est assis sur une table à l'écart. Peut-être qu'il se concentre avant le procès. Il doit savoir qu'il a un rôle important aujourd'hui. Vous l'avez interviewé hier, je crois.
Oui, on va l'entendre dans une minute.
Les autres se sont mélangés avec le jury.
Le public et le jury ne sont pas séparés ?
Non, ils restent ensemble. C'est un tribunal à caractère populaire. Les jurés ont été tirés au sort la semaine dernière. Mais d'après nos informations, quelques-uns ont fait défection au dernier moment. Les organisateurs ont décidé ce matin que le jury serait mixte, composé de ceux qui n'ont pas fait défection, et des volontaires présents dans la salle.
Il n'y a pas beaucoup de monde.
Une vingtaine de personnes. C'est bien suffisant pour un procès exemplaire. Ils avaient pensé se réunir dehors, dans la rue, pour donner une plus grande publicité au débat. Mais, comme la radio venait, nous les avons poussés à choisir le réfectoire. L'acoustique sera meilleure et il y aura moins de perturbateurs incontrôlables.
De perturbateurs ?
Oui. Dans la rue, il y a toujours des gêneurs qui traînent. Des ivrognes, des mendiants, des émeutiers professionnels, des mégalomanes, vous voyez le genre.
Docteur Agatienko, merci. Comme vous l'avez dit, j'ai interviewé hier le juge principal, Marek Brisbane. Hier aussi, il portait une casquette rouge. Nous allons entendre son interview.
Monsieur le juge, bonjour. Vous avez été choisi par vos camarades de dortoir pour assumer cette fonction importante. Y avait-il d'autres candidats ?
Bonjour.
Vous vous appelez Marek Brisbane. Demain, vous dirigerez les débats du procès Tassili. C'est une responsabilité importante. Comment avez-vous été désigné ?
Marek Brisbane, c'est mon nom. J'ai été élu par tous les dortoirs de la zone centre et par le dortoir 82, qui est le dortoir de Tassili. J'ai été élu par acclamation. C'était soit moi, soit la louve. C'est tombé sur moi.
La louve ? Vous avez donc été opposé à un autre candidat ou à une autre candidate ? La louve, c'est un homme ou une femme ?
J'étais le seul candidat. C'était moi ou la louve.
Pouvez-vous nous parler de vous, Marek Brisbane ? Vous êtes ici depuis longtemps ? Quand êtes-vous arrivé à la Drivna ?
Des fois, on m'appelle comme ça. Tantôt Marek, tantôt la louve. Je suis un vieux de la vieille ici. Je suis arrivé au camp il y a 3 ans. Ils m'ont diagnostiqué au laser dans une affaire de dédoublement. J'ai été enfermé avec la louve.
On m'a indiqué que vous avez fait des études de droit avant votre arrestation. Vous avez autrefois travaillé dans un palais de justice. Le monde judiciaire ne vous est pas étranger. Je suppose que c'est pour cette raison qu'on vous a choisi comme juge.
Le monde judiciaire, c'est que des conneries. C'est comme cette affaire de dédoublement qu'on m'a collée au poitrail. Je suis innocent. J'ai été victime des autorités et du laser. Si vous êtes en contact avec eux, vous pouvez leur dire que je les emmerde.
De toute façon, votre formation de juriste va vous aider à assumer la présidence du procès Tassili, n'est-ce pas ?
C'est parce que je connais Tassili. Il est du dortoir 82. Moi aussi, pendant un temps, j'ai été au dortoir 82. Pendant 6 mois et demi. On se connaît par la peau du cou et vice-versa.
Vous avez donc des liens avec l'accusé. Ça ne risque pas de créer des complications entre vous et lui ? En tant que juge, vous pensez que vous pourrez être suffisamment objectif ?
On se connaît, Tassili et moi. Ça suffira pour être objectif l'un avec l'autre. Et en plus, il connaît tout le monde ici. Il connaît la louve. Lui aussi, comme elle, il a été victime des autorités et du laser. Lui aussi, s'il avait la parole, il pourrait vous dire qu'il les emmerde, les autorités.
Nous voilà donc de retour dans la section psychiatrique de haute sécurité du combinat pénitentiaire de la Drivna pour assister à un procès entièrement placé sous la responsabilité des détenus.
Des pensionnaires.
Évidemment, oui. Des pensionnaires de cette cité psychiatrique expérimentale. En se passant totalement de l'assistance de l'administration du camp, ils vont juger aujourd'hui un des leurs. Je crois que tout le monde est en place dans le réfectoire transformé en salle de tribunal. Les pensionnaires, les jurés, le public, l'accusé et son avocat, le juge, tous les acteurs du procès sont là. Ils font silence. On dirait qu'ils observent une minute de silence rituel. Ah, voilà que le juge Marek Brisbane s'avance. Il ôte sa casquette rouge, puis il la revisse sur sa tête. Maintenant, il va sans doute procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Il n'y aura pas d'interrogatoire d'identité, ils se connaissent tous. C'est un procès qui va se dérouler selon les règles, mais sans formalisme excessif, je crois. Il fait asseoir tout le monde, et pour l'instant, lui, il reste debout.
Tassili ! Tassili ! Lève-toi ! Tu sais pourquoi qu'on va te juger ?
C'est l'histoire des araignées. C'est encore l'histoire des araignées. Dès le début, j'avais prophétisé que ça allait finir en Titanic. C'est pas moi qui ai décidé d'y aller. J'ai été nommé cosmonaute, de gré ou de force. Bon, j'avais envoyé un certificat de phobie, mais la commission en a pas tenu compte. J'avais prophétisé que ça allait finir par des décès et tout le toutim. Mais personne m'a écouté et personne n'a écouté les autres de l'expédition. Hein. On est parti comme des moucherons à l'abattoir. Rien n'est de ma faute. Je suis innocent.
Va pas si vite, Tassili. Commence-moi par la fin. Il y a un acte d'accusation à déblatérer. Si la louve le fait pas, c'est moi, Marek Brisbane en personne, qui va déblatérer ça. Tu nous raconteras ton innocence plus tard. Il faut observer la procédure. Ils nous écoutent là-haut, depuis les Miradors. Ils seraient trop contents si que ça se passerait mal. Ils nous enverraient tous en cassation à coups de laser. On va d'abord lire l'acte d'accusation vite chaud, bien chaud, qu'ils aient rien à nous reprocher. Oublie pas qu'on a des lasers pointés sur la gueule. Faut pas plaisanter sur la procédure.
Ils nous surveillent depuis là-haut et on les emmerde.
Ah, pas ça. C'est-à-dire que bon, on les emmerde.
Mais on va respecter la procédure.
Il ne faut pas plaisanter avec la procédure.
Mon client écoute, votre honneur.
N'appelle pas votre honneur, Jeannot. On fait un tribunal, mais pas de ronde-jambes entre nous. C'est un procès entre nous. Appelle-moi monsieur le juge ou la louve. Le mieux, ce serait que tu m'appelles pas trop.
Mon client écoute, la louve. Tassili t'écoute. Vas-y, déblatère l'accusation avec ta bouche de juge. Pour nous, c'est du pipi de Sansonnet. Nous plaidons non coupables.
Tassili, écoute-moi bien. Il y a 15 jours, t'étais encore rien d'autre que de la gueusaille déportée. Un habitant sans foi ni loi du dortoir 82, comme toi et moi. Mais maintenant, tu comparais corporellement devant nous, accusé de tous les crimes. T'auras beau plaider non coupable devant la justice, je vais te dévider en public de quoi qu'on t'accuse. Il y a 15 jours, tu as été désigné pour faire partie d'une équipe de 4 cosmonautes héroïques. L'équipe comptait 3 personnes plus toi, ça fait 4 personnes. Vous avez été envoyé en exploration pour explorer les espaces noirs au fond du dortoir 65, avec l'idée que vous établiriez en plus un contact diplomatique avec les araignées. Tu es le seul à être revenu. Les 3 autres... Quelqu'un peut nous les énumérer, Urbi et Torbi ? Toi, la rivière. T'es le premier juré. Tu peux dire qui que c'était, ces 3-là ?
Bah oui. Il y avait Gros Schmutz et Kalugin de la rue Einstein. Et Breton du dortoir 40. Et Tassili du dortoir 82.
Pas la peine d'énumérer Tassili.
Lui, il est revenu. Il est revenu avec son corps et tout le toutim. Je me trompe pas, Tassili?
Oh, tu vois bien.
Avec tout le toutim, c'est possible. Mais surtout, il est revenu sans gros schmutz et sans breton. Kalougine, pareil. Tous restés en arrière. Tous inconnus au bataillon de retour. Pas la peine d'inventer du rocambolesque. Évidemment que Tassili les a décédés du premier au dernier.
Je t'arrête, la rivière. C'est pas encore au jury de se prononcer sur l'accusation publique. C'est moi que je dois déblatérer en premier les charges et les décharges.
Bah alors, on sert à rien.
T'impatiente pas, la rivière. Plus tard, tu pourras accabler Tassili à tire-larigot. Mais maintenant, c'est l'heure que tu écoutes. C'est l'heure que vous ouvriez tous vos oreilles de visage. Il faut que l'acte d'accusation continue son déroulé juridique sans entourloupette. Tassili, toi aussi, faut que t'écoutes.
Ouais.
Quand tu t'es retrouvé à nouveau du bon côté des espaces noirs, t'as annoncé à la cantonade que Gros Schmutz, Kalougin et Breton étaient morts. Et t'as même déclaré qu'ils avaient été décédés salement et pas au champ d'honneur. Je cite tes paroles, plusieurs témoins les ont rapportées à l'identique. T'as pas voulu t'expliquer, t'as fait que répéter ça. Tu roulais des yeux fous, t'étais couvert de saleté noire et tu saignais. Ensuite, t'as raconté des tissus de conneries sur les araignées. Personne t'a cru.
Normal, votre honneur. La vérité n'est pas toujours bonne à entendre.
Jeannot, me coupe pas la parole pendant que je déblatère. Tassili, voilà où nous en sommes. Tu es parti en mission avec trois camarades et tu es revenu seul et sauf. Là-dessus, on est à l'unanimité. On verra à te faire dire comment que ça s'est passé pendant le voyage. Pour l'instant, on va t'inculper de crimes barbares sur cosmonautes, de non-assistance à cadavres en difficulté, de complicité d'enlèvement par araignée et d'outrage posthume à la mémoire des décédés. C'est le résumé de l'accusation en gros et en détail.
C'est un tissu de conneries de la maison conneries et vice-versa. Je suis innocent sur tous les fronts.
Nous plaidons non coupable, votre honneur.
Jeannot, je t'ai dit de pas m'appeler votre honneur. Et puis on est déjà plus crassasié d'entendre ça. Vous voulez pas endosser la paternité de vos crimes, d'accord. Mais pas la peine de nous bassiner votre innocence jusqu'à plus soif.
Je le répète pour que ça vous rentre dans la tête et les oreilles. Tassili a pas collaboré avec les araignées et il a massacré personne.
Qu'est-ce que t'en sais, Jeannot? Tu peux raconter à sa place? En dehors de toi, t'as des témoins qui peuvent bonimenter sur l'innocence de Tassili?
Les témoins... On les manifestera à leur dite.
Je vois personne comme ça dans cette salle. Qui que t'avais en vue, Jeannot?
On les attend. Ils vont venir.
Je sais pas ce que c'est que cette histoire de témoin que Calcutta va manifester. Hein. Et non, je m'en tape le coquillard. Je suis non coupable et donc innocent. Ici, Tassili, du dortoir 82, j'appelle le tribunal. Je suis innocent et je vais le prouver. Par mes récits de bouche, dit par moi-même.
Mais tu sais bien qu'ici, on croit pas toujours les récits de bouche. Et d'ailleurs, tu les as déjà marmonnés en public et personne t'a cru. Si tu veux qu'on entende que tu manipules la vérité en ton âme et conscience et tout le toutim, j'ai une chose à te conseiller. Commence par déverser tes explications directement de tête en tête. On a tous de la matière cérébrale sous le crâne, c'est pas pour qu'elle tourne à vide dans l'enfer de nos boîtes. C'est pour qu'elles servent à recevoir les voix de cervelle venues d'ailleurs et nos voix personnelles de louves et de doubles animaux. Branche-toi sur ce fatras qu'on a tous sous les fontanelles, Tassili. Raconte-nous tes aventures de tête en tête et passe pas par la bouche. Ça ira pas forcément plus vite, mais au moins, nous, on aura ta version. Et elle regarde pas forcément ceux qui nous surveillent au laser depuis leur mirador. Et qu'on emmerde.
Les détenus,
les pensionnaires,
se sont rapprochés de Tassili et ils ne bougent guère. Ils sont même plutôt figés, on dirait. Ils donnent l'impression d'écouter ou de réfléchir. Oui, c'est cette impression qu'ils donnent. Certains ont des tics, mais globalement, ils sont immobiles. De là où je suis, je ne peux pas voir très exactement l'expression de leur visage, mais je pense qu'ils ont les yeux à moitié fermés ou le regard vague. Ils écoutent ce que leur transmet l'accusé. Ce qu'il leur transmet ou ce qu'il essaie de leur transmettre par télépathie. Ce qu'il leur raconte de tête en tête, pour reprendre l'expression du juge. C'est bien ça, docteur Agatienko, n'est-ce pas?
C'est exactement ça. C'est une de leurs pratiques de malade. On peut en penser ce qu'on veut. En tout cas, pendant ce temps, ils se taisent. et il ne bouge pas.
Eh bien, nous allons en profiter pour écouter une interview d'un des camarades de dortoir de Tassili, Julien Romanov, un pensionnaire du dortoir 82. Julien Romanov, vous faisiez partie de la commission qui a examiné les candidatures pour l'exploration des araignées.
On était 7 dans la commission. On aime tous ce chiffre. On n'aime pas le 4. Tout a foiré parce qu'on a envoyé un groupe de 4. Il n'aurait pas fallu. Il aurait fallu en envoyer 5 ou 7. À 4, c'était sûr que ça partirait en Titanic. Fallait pas non plus envoyer Kalougine. Kalougine n'a pas toute sa tête depuis qu'il a raté son examen de moine zen. Et il lui arrive d'avoir des crises de cannibalisme.
Vous voulez dire qu'il peut manger ses camarades ?
Il mange tout ce qu'il trouve. Pendant ses crises, il a une fringale de viande. Il mange tout ce qui bouge sur son passage. Il tue et il mange.
C'était risqué de l'envoyer en mission, alors ?
C'était risqué. Je leur ai dit. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils n'ont pas voulu m'écouter parce que je suis petit. Je suis tout petit. Et il pleut.
Je ne trouve pas que vous soyez si petit que ça. Je vous donnerais 1m75 dans ces eaux-là.
Je suis tout petit, je ne suis pas encore né. C'est pour ça qu'il ne m'écoute pas. Je suis tout petit et il pleut.
Et en dehors de ce Kalougine, vous avez examiné combien de candidats pour cette mission ?
Pas beaucoup. Il n'y a plus de vocation d'aventure comme autrefois. On en a examiné 4. Ils étaient que 4 en tout, tous désignés par leur dortoir. Ils ne s'étaient pas vraiment portés volontaires, en fait. La commission les a nommés cosmonautes à l'unanimité.
J'avais cru que vous émettiez des réserves à l'unanimité. Vous m'avez dit que vous étiez contre la nomination de Kalougine.
Ma voix compte pas. Je suis trop petit. J'étais contre Kalougine et Breton, mais ma voix compte pas.
Vous étiez aussi défavorable à la nomination de Breton ?
J'étais contre tous les candidats. Kalougine parce qu'il a ses crises de cannibalisme. Breton parce qu'avec lui, c'était foutu d'avance. Il se prend pour un poète maudit. Et il a aucun sens de la discipline. Grosmout, j'étais contre aussi, parce qu'il a très mauvaise vue. Il est presque aveugle, et ça le rend teigneux. Comment qu'un presque aveugle peut traverser l'espace noir ? Et Tassili aussi, j'étais contre. Tout le monde sait qu'il est dangereux, qu'il sait se battre, et qu'il déteste Breton, Grosmout et Kalougine. À l'extérieur, il appartenait à une fraction politique dissidente. Il les considérait comme des débiles ou des traîtres. Ça pouvait pas faire un groupe correct. Ça pouvait que foirer, c'est ce que je leur ai dit, que ça allait partir en Titanic. Et puis aussi, moi, j'ai toujours pensé que la prise de contact avec les araignées, ça pouvait pas.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous voilà de retour au cœur du procès Tassili. Il y a de nouveau de l'agitation dans la salle du bas. La méditation collective est terminée, les fous y ont mis fin assez brusquement. Maintenant, ils discutent entre eux, le ton est assez vif, on dirait qu'ils se disputent. Oui, il est clair qu'ils ne sont pas d'accord. On peut remettre le son de la salle du bas ?
Silence ! Je vais atomiser la salle.
Mais si ! Même quand ça se déverse de tête en tête, ça part en Titanic. Je me demande si c'est pas exprès.
Mais tous ces connards des Miradors avec leur laser et leur radar, ils nous brouillent tous, ces connards !
Ils nous brouillent tous et on les emmène !
Ça a l'air de chauffer entre eux. On ne comprend pas quel est le sujet de leur désaccord, mais ça a l'air de chauffer. C'est peut-être le moment de faire venir quelqu'un dans le sas et de lui demander quel est le problème qui les a tant bouleversés. Docteur Agatienko, qu'est-ce que vous en pensez ?
À mon avis, c'est le problème habituel qu'ils rencontrent avec la télépathie. Un sentiment de frustration. Ils s'envoient des informations et des images, mais dès que le flux s'arrête, ils ne retiennent rien. Ça se dissipe comme un rêve. Tassili leur a raconté mentalement ce qui s'est passé, mais ça s'est effacé dès qu'ils ont rouvert les yeux. Vous voulez faire venir quelqu'un dans le sas pour vérifier ?
Ah oui, j'aimerais bien interroger quelqu'un là-dessus.
Vous allez faire monter Molinari ?
Ah oui. Est-ce que vous voyez ce grand type avec une veste marron qui ressemble à un clochard ? C'est Molinari. Vous le voyez ?
Celui qui gesticule en face de l'accusé ?
Oui.
Il n'a pas l'air commode. Hein.
Bah, il n'est pas plus agressif que les autres. Il a ses lubies, mais il n'a pas trop régressé du point de vue du langage. Je vous l'appelle ?
Oui, s'il vous plaît.
Molinari, au parloir. Molinari, parloir.
Eh bien, maintenant nous nous trouvons tous les deux entre la cabine de contrôle et l'espace naturel où les malades sont parqués. J'aurais presque envie de dire que nous nous trouvons entre ciel et terre. Molinari, bonjour.
Moi, c'est Molinari. Vous êtes la radio ?
Oui, c'est pour un reportage sur le procès Tassili.
Si Tassili était ici à parler dans la radio, il vous dirait qu'il vous emmerde. Vous faites partie des surveillants et des docteurs. Vous êtes de leur côté. On n'en a rien à cirer de vos lasers et de vos ondes. J'ai rien à ajouter. Vos ondes électromagnétiques, vous pouvez vous les foutre où je pense.
Mais vous avez parfaitement le droit de donner votre avis. Vous êtes sur Franche Culture. Nous admettons tous les points de vue, à condition qu'ils ne soient insultants pour personne.
Franche Culture ?
Oui.
Jamais entendu parler.
Ce que j'aimerais savoir ici, c'est pourquoi vous vous êtes mis à vous crier dessus il y a 5 minutes.
On se criait pas dessus. On est insultant pour personne. On respecte la légalité, notre légalité.
Tassili vous a raconté ce qui s'est passé ?
Quand ?
Ce qui s'est passé pendant l'expédition, il vous l'a raconté en tête à tête ?
Bah oui, peut-être. Ça vous intéresse ? Il l'a déversé en muet dans le fatras de cervelle de nos têtes. Ça a aussitôt filé dans nos sous-sols intérieurs jusqu'aux poumons. Je dis les poumons, mais si ça se trouve, c'est déjà descendu en vrille dans les savates de notre deuxième ventre, et même plus bas. Plus personne se rappelle de rien de rien.
Il vous a transmis des images et des informations pendant un quart d'heure. Vous n'en avez conservé aucune trace ?
C'est passé directement aux oubliettes et aux savates. Il y en a qui ont interrogé leur mémoire immédiate pour voir s'il y avait des restes. Mais non, pas une miette de reste. Et vous, vous en avez encore une de mémoire immédiate ?
Je suppose que oui, comme tout le monde.
Alors si vous avez une mémoire immédiate, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit de la part de Tassili et des morts. Que la radio, on l'emmerde.
Et les araignées, Molinari, elles en ont une de mémoire immédiate ?
Les araignées aussi. Elles vous emmerdent.
Eh bien, merci, Molinari. Vous pouvez aller rejoindre vos camarades. Eh bien, je vous propose d'écouter un enregistrement que j'ai fait hier en compagnie de l'ingénieur Nanouk Donskoy, qui a conçu le projet de l'expédition avec plusieurs personnalités du dortoir 65, d'où l'expédition d'ailleurs est partie. Nous avons discuté avec Nanouk Donskoy de l'objectif de la mission et de ses caractéristiques techniques. Nanouk Donskoy, vous faites partie du Brain Trust qui a élaboré la mission de contact avec les araignées. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Exploration et contact. Araignées et autres araignées du même genre. Araignées, y compris les humains, du même genre. Il y a un passage étroit au fond du dortoir 65. Un passage très étroit. Après les cabinets, quand on continue, il y a un cagibier. Et quand on continue en se baissant, il y a un passage étroit. C'est comme un tunnel. Je vais essayer de vous expliquer de façon simple, puisque vous êtes un esprit simple. Il y a des notions trop compliquées pour vous, et de toute façon, c'est des choses qui doivent rester secrètes. Elles doivent rester secrètes, très secrètes. Donc, c'est comme un tunnel qui transforme ce qui entre. Vous vous baissez dans le cagibier, vous vous baissez de plus en plus, et vous entrez dans le passage, ça peut faire mal. Les premiers qui se sont aventurés là-dedans sont morts, tout de suite.
Vous avez fait des tentatives d'expédition avant celle-là ? Des tentatives qui se sont conclues par un échec, par des victimes ?
On a lancé plusieurs cosmonautes là-dedans. Des pionniers héroïques, Emmanuel Carpentier, Le Nain, Franck Amati, Léon Ivanovitch, Zorba Tarantino et d'autres. On les a envoyés pour tester les communications. Vraiment pas beaucoup sont revenus. Les communications n'ont jamais marché. Même avec du bon matériel, ça n'a jamais marché. Ceux qui sont revenus ont dit que dès l'entrée, le parcours était épouvantable. Ensuite, ils sont morts. Les autres sont pas revenus, ils ont disparu dans le tunnel. Et ceux qui sont revenus ont prétendu qu'il y avait de la lumière au bout d'une certaine distance et qu'il fallait franchir des dentelles effrayantes.
Des dentelles effrayantes ?
C'est ce qu'ils ont dit. Ensuite, ils sont morts. On a préparé pour l'équipe de Tassili des boucliers spéciaux pour franchir les obstacles que les pionniers n'avaient pas pu traverser.
Quel genre de bouclier ?
Je ne peux pas vous expliquer. Vous ne pourriez pas comprendre. C'est pas un vrai tunnel. C'est pas des vrais boucliers. Je parle comme ça avec des mots simples, puisque vous êtes un esprit simple. Vous êtes venu du dehors.
Effectivement, je suis venu du dehors.
Alors vous êtes un esprit simple. Cérébralement, vous ne faites pas le poids. Vous ne comprenez pas grand-chose et il faut utiliser des images simples et des mots simples pour que vous ne vous perdiez pas. Donc, on a mis au point des boucliers pour dépasser les obstacles. Là-dedans, il n'y a pas que les dentelles effrayantes, il y a aussi les ornières salées, les miroirs en ruine, les flammes poudreuses et tout le toutim. Et puis évidemment, au bout du chemin, il y a les araignées. On a boutiqué des boucliers pour que les cosmonautes arrivent jusqu'aux araignées. Ils sont partis un peu à l'aveuglette, mais l'expédition était bien préparée. On voulait accroître nos connaissances sur les mondes qui sont à côté de nous. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y avait aussi et surtout un volet diplomatique.
Vous vouliez établir des contacts avec les araignées. Des contacts de quelle nature ?
C'était une mission. Avec des objectifs. Certains sont évidents, d'autres sont secrets. Je ne vais pas tout vous raconter, même avec des mots simples. Je ne vais pas tout vous raconter, c'est secret.
Vous avez été au cœur du projet. Vous pouvez certainement nous livrer quelques éléments. Les lignes directrices. Tout n'est pas couvert par le secret.
Tout est secret. Mais je peux vous redire ce que vous savez déjà. On avait l'intention d'établir un contact avec les araignées. Là-dessus, pas la peine de jouer au plus fin, c'est connu. Un contact durable. D'espèce intelligente à espèce intelligente. Je dis intelligente parce que c'est un mot simple et que ça vous simplifie les images. En réalité, les araignées ne sont pas vraiment intelligentes. Nous non plus.
Je reviens sur l'objectif de cette opération. Après avoir établi le contact, vous pensiez faire quoi ?
C'est secret. Ça ne peut pas sortir de nos bouches, même si elles sont closes. On est tous plombés au secret défense. On devait d'abord faire le contact, et ensuite c'est secret. Ça concerne l'univers entier à l'extérieur. Ça concerne des choses que les autorités du camp et vous-même n'êtes pas capables de comprendre. Quand ça vous tombera dessus, vous ne comprendrez même pas ce qui vous arrive. Vous mourrez tous en même temps, dans un immense silence. Je vous dis ça en mots simples, pour que vous ayez une idée à l'avance.
Voilà, c'était Nanouk Donskoï du dortoir 65, un des meilleurs théoriciens du camp psychiatrique expérimental de la Drivna. Nous nous tournons à présent une nouvelle fois vers la salle du bas, vers le réfectoire, qui a été transformé en tribunal populaire. Le procès se poursuit. C'est Molinari, l'espèce de clochard que nous avons entendu tout à l'heure, qui mène en ce moment l'interrogatoire de l'accusé. On ne sait pas trop s'il est membre du jury ou du public, ou s'il a un rôle institutionnel d'accusateur. En tout cas, il se tient en face de Tassili et il l'interroge.
On l'attendait.
On va reprendre ce que tu dis à propos de Kalugin. Mais d'abord, on va parler de Breton. D'après toi, Breton a été jusqu'au bout du tunnel.
Oui, comme nous tous, il est allé jusqu'au bout du tunnel. Ça a été dur. On avait des masques, mi-carton, mi-plastique. Et ça a commencé à fondre avant qu'on arrive aux dentelles effrayantes. Gros Schmutz les a franchis le premier. Avec les mains qui tâtonnaient comme si qu'il était en train de nager dans du feu épais. Ensuite moi, ensuite Kalugin. On a regardé derrière nous pour voir si Breton arrivait. Ça fumait et ça puait le linoléum brûlé. J'ai enlevé mon masque et sous le menton, la peau est partie avec le masque. Bah, ça m'a impressionné, hein. Mais j'ai pas eu mal. Bah, pour Kalugin et Gros Schmutz, pareil. On a enlevé nos masques et on a senti que la peau partait. On faisait pas attention à ça. On se défaisait et on changeait de forme, mais on se regardait pas les uns les autres. On regardait les dentelles effrayantes en attendant l'arrivée de Breton. Ça sentait la chair en métamorphose. Le plastique brûlé et l'araignée de Kajibi. Breton n'arrivait pas. On a pensé qu'il s'était perdu. Ensuite, il arrivait. Il avait le masque de travers. Il hurlait. Il ne s'est pas arrêté à notre hauteur. Il a continué. Il a filé.
Il a filé où?
Il a grimpé sur la première éminence venue. Il faisait très noir, la rue était étroite, mais on voyait bien que c'était pas un endroit à escalader. Même Gros Schmutz, qui est très myope, s'en est rendu compte. Je l'ai entendu qui poussait une exclamation pour avertir Breton. Et Breton, il a rien écouté. Il écoute jamais rien de ce qu'on dit. Il a pas retiré son masque, et ça fumait par en dessous des pieds à la tête. Il s'est mis dans sa pose de poète inspiré, et il a commencé à triturer des paroles depuis le masque, avec sa bouche de visage qui fumait.
Quelle éminence que c'était?
Là-bas, les araignées appellent ça une noirâtre. C'est sacré pour elles.
Tassili, tu vas tout de même pas mettre les reproches sur Breton et les autres. C'est toi que tu as tout foutu en l'air. C'est pas les poésies de Breton qui interviennent dans ton crime, poésie ou pas. C'est pas ça qui a fait décéder Kalugin, Gros Schmutz et Breton. C'est toi, avec les viandes de ton corps, qui les a tués dans des conditions abominables.
Ah, objection, votre honneur.
Qu'est-ce que tu objectes, Jeannot? Il est juré. Il a le droit d'expulser toutes les accusations qui lui vrombissent dans la cervelle.
C'est une atteinte à la présomption d'innocence.
Arrête tes conneries, Jeannot. On n'en est plus là. Tassili, on continue. Tu en étais à ce monticule noirâtre avec Breton juché dessus.
Je vous dis, c'est à partir de là que la calamité a commencé à louvoyer autour de nous. Dès que ça a débuté comme ça, derrière les dentelles effrayantes, j'ai été sûr que ça sombrerait au cauchemar. Avant les dentelles effrayantes, à peu près on a tenu bon. On fumait et on perdait notre peau de visage du front au menton, mais on tenait bon. Mais de l'autre côté des dentelles, ça a viré en titanique. Breton s'est posté sur la noirâtre, et il a dévissé un discours que personne ne pouvait comprendre. Ni moi, ni les araignées, ni Kalugin, ni Gros Schmutz. On regardait et on écoutait Breton avec nos organismes et nos deuxièmes viandes. On était dans nos fumées avec la souffrance de nos peaux de visage qui étaient restées collées au masque. Et on regardait et on écoutait Breton sans quitter nos organismes et sans bouger. Et lui, Breton, il déroulait son tissu de parole. Il disait rien que des choses interdites et des âneries.
Objection! C'est une atteinte à la présomption d'innocence de Breton.
Objection retenue, Molinari. Tassili, on ne demande pas ton avis sur les discours de Breton.
Il a déballé des choses interdites. Il évoquait l'organisation à haute voix, avec sa bouche. Non seulement il était posté sur une noirâtre sacrée, mais il haranguait des phrases en parlant de l'organisation. Ça pouvait plaire à personne. Les araignées, parce qu'ils piétinaient un de leurs tabous, et nous, parce qu'ils livraient des secrets au hasard. Ça a beaucoup énervé Gros Schmutz et Kalugin. Ils se sont rapprochés de moi par télépathie, et ils m'ont demandé si on ne devait pas éliminer Breton avant que ça s'aggrave en trahison, en passage à l'ennemi, et tout le toutim.
Une seconde, Tassili. Je vais consulter l'équipe technique. Donskoy.
Oui.
Quand vous avez préparé l'expédition, vous aviez prévu le cas d'un passage à l'ennemi?
Oui, c'est les aléas du voyage. On avait prévu le passage à l'ennemi et la défection avec refus de contact avec les araignées. C'est des fautes graves. Ça se discute pas à tire-larigot quand on est sur zone. Faut zigouiller ceux qui trahissent. C'est une vieille loi des cosmonautes quand ils vont aux araignées.
Tassili dit que Gros Schmutz et Kalugin lui ont demandé de zigouiller Breton. C'était normal?
Oui, ils ont respecté la procédure. Ah. Tassili était pas loin de Breton et en plus, il a été soldat. Eh, il a pas oublié ses techniques de commando. Oh. C'est normal que les autres lui aient demandé d'exterminer Breton jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh. J'aurais fait la même chose à leur place.
Mais j'ai pas exterminé Breton. C'est lui qui s'est exterminé tout seul, moyennant les araignées. À peine Kalugin me parlait de tête en tête que Breton s'est effondré sur la noirâtre. Il sentait la viande grillée au bout du rouleau. Et il était enfoncé dans la noirâtre jusqu'à mi-mollet. Il s'est recroquevillé sur la noirâtre en parlant et c'est là que les araignées ont rappliqué. Elles étaient nerveuses. Mais moi, j'ai rien à voir là-dedans.
D'y voir la louve. Et si que tu ordonnais une reconstitution du crime?
Tassili pourrait monter sur une table et nous faire une pantomime sonore de breton, avec ses soi-disant dérapages sur l'organisation.
Objection retenue, la rivière. On va disloquer le tribunal vers une reconstitution ourbi et torbi.
Tassili, la noirâtre avait bien la hauteur d'une table.
Plus ou moins, oui.
Tu vas monter sur une table. On va se disloquer autour de toi. Molinari et la rivière feront les cosmonautes, le jury fera les araignées. Faut encore un volontaire pour jouer le rôle muet de Tassili, à côté de la table. Il y a un volontaire ? Romanov ?
Pas moi, non. Moi, je suis tout petit. Il pleut.
Voilà plusieurs fois que la question de l'organisation est abordée. J'ai l'impression que c'est une question sensible. Mais on pourrait essayer d'en savoir un peu plus. Docteur Agatienko, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler quelqu'un pour l'interroger sur cette fameuse organisation ?
Vous aurez du mal à leur soutirer des renseignements. Ils ne se lâchent jamais sur le sujet. Vous voyez le vieillard qui fait semblant de somnoler dans le public et qui surveille tout. C'est Mingrelian. Il est lié à l'organisation, mais on n'a jamais pu le prouver. L'organisation est beaucoup trop hermétique pour qu'on la filtre. La plupart du temps, elle reste inactive. Elle peut rester inactive pendant 50 ans ou plus. Nos services de renseignement ne savent même pas si elle existe encore ou si c'est une légende.
J'aimerais bien discuter avec ce Mingrelian pendant qu'ils installent la reconstitution.
Bon, d'accord, mais vous allez voir, il ne va rien vous dire.
Mingrelian, au parloir. Mingrelian, réveille-toi. Au parloir.
Bonjour. Mingrelian, l'accusé prétend que Breton a prononcé des paroles interdites à propos de l'organisation. Cette organisation, de quoi s'agit-il exactement ?
Je ne sais pas ce que Breton a débagoulé. On n'a pas encore fait la reconstitution.
Il a parlé de l'organisation. À votre avis, il avait le droit de le faire ?
Non.
Tout ce qui concerne l'organisation doit rester secret ?
Non, on a des porte-paroles.
Vous êtes l'un d'eux ?
Non, ils sont tous morts. Moi aussi. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu parler de l'organisation.
Breton en a parlé. Il en est question dans le procès. Écoutez, Mingrelian, moi ça m'est égal de savoir si vous êtes membre ou non de l'organisation, si vous êtes nombreux ou si vous n'êtes qu'une poignée et quels sont vos chefs. Ce qui intéresse nos auditeurs, c'est le programme de l'organisation, ses objectifs. Vous vouliez établir une alliance avec les araignées ?
Je comprends pas ce que vous racontez.
Vous êtes d'accord avec ce genre d'alliance ? Il y a des débats dans l'organisation sur ce genre d'alliance, sur ses conséquences politiques ?
L'organisation débat plus. C'est plus l'heure de débattre. Déjà avant, c'était pas l'heure. Maintenant, tout le monde est mort. Pas la peine de débattre.
Vous voulez dire qu'autrefois, il n'y avait pas de discussion sur les objectifs de l'organisation ?
C'était pas la peine de discuter. C'était clair.
Si c'était clair, ça consistait en quoi, Mingrelian ? Dans les grandes lignes, ça reposait sur quel principe ?
Je sais pas.
Vous voulez pas me le dire ?
Non, c'était secret. Aujourd'hui encore, c'est secret. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'organisation n'existe pas. Et qu'on vous emmerde.
Eh bien, merci, détenu Mingrelian. Vous pouvez retourner dans la salle du tribunal. Et nous aussi, nous retournons dans la salle du tribunal. L'accusé Tassili est monté sur une table et il s'apprête à parler en imitant Breton. Il prend l'air de quelqu'un qui surmonte sa souffrance pour parler.
Frères araignes, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. On est à fond de cale du présent. Déjà, on n'a plus que du souvenir en glotte. Le passé est passé dans les profondeurs de nos viandes et ailleurs. Ça remue dans le noir sans mémoire immédiate. C'est moi donc... C'est donc moi qui...
C'est un discours très décousu.
J'ai les clés.
Breton agonise et
tout
délire.
Tout sera pour vous après fermeture. On va vous livrer l'organisation à bâton rompu. Faites-en bon usage. Frères et sœurs.
Tassili observe des pauses pendant lesquelles il mime une grande souffrance. L'asphyxie, les brûlures. Il se tord sur lui-même. Il écarte avec les mains des fumerolles imaginaires.
Les camps, la folie terminale. Les camps oniriques. Désespoir d'avoir tout raté. Dévoré. Et pourri. Cendre et poudre.
Tassili tombe à genoux sur la table. Il a l'air secoué de spasmes.
La Drivna et l'organisation pour carte ultime. On vous appelle. Que l'organisation nous veuille absoudre. Vous remettrez l'ignominie humaine en place.
Il s'effondre sur le côté. Des soupirs, des spasmes.
Après notre départ, l'organisation vous appelle. Ça sera sans fin.
Sa voix porte moins qu'au début.
Ça durera ce que ça durera. L'organisation. Continuez.
Il ne prononce plus que des mots isolés. Je dois avouer que c'est très confus.
Des restes qui restent.
Bon, allez, relève-toi, Tassili. Tu nous as fait un numéro, mais ça nous a pas appris grand-chose.
Maintenant, Tassili se relève. Il descend de la table sur laquelle il était juché. Son avocat le prend dans ses bras et le congratule. L'avocat se tourne vers le jury.
Attends. La reconstitution a été éclairante comme de l'eau de roche. Elle prouve l'innocence de mon client. Je demande la relaxe de Tassili. Breton est mort d'agonie. Il s'est hissé au sommet d'un monticule qui n'était pas pour lui. Il a répandu son discours et il a décédé dans la foulée.
Où que tu as vu qu'il avait décédé, Jeannot ? Il s'est couché sur la table. C'est pas pour ça qu'il est mort de sa mort cadavérique.
J'ai jamais dit qu'il était décédé comme ça de sa belle mort. Vous m'avez pas laissé le temps de faire la reconstitution jusqu'au bout.
Tu vois, Jeannot, même Tassili dit que Breton est pas mort d'agonie.
Bah non, non, Breton, il est pas mort d'agonie. Mais Jeannot, il dit que des conneries. Breton, il s'est effondré sur la noirâtre. Et à ce moment-là, Grosschmutz et Kalougine m'ont ordonné d'aller exécuter Breton pour intelligence avec l'ennemi. Donskoï a rappelé ça tout à l'heure. On a nos règles entre cosmonautes. Et ça pardonne pas. Et puis, Breton nous énervait depuis le début avec ses beaux discours. Alors je me suis dirigé vers la noirâtre. J'ai pas avancé vite. Parce que je voulais pas que Breton m'entende approcher et qu'il se mette à ruer dans les brancards. Au moment que déjà je me demandais à quel endroit j'allais taper sur Breton, les araignées ont appliqué. Alors, ça a commencé la grande valse du Titanic.
Puis voir un peu, Tassili. Avant les araignées, quand Grosschmutz et Kalougin t'ont proposé d'aller tuer Breton, t'as pas fait de difficulté ? Ça t'a pas dérangé d'aller assassiner un camarade en pleine mission ?
Objection, votre honneur ! On entre dans de la psychologie de bas étage.
Objection rejetée. Jeannot, tu perds ton temps. Même Tassili trouve que tu déballes connerie sur connerie.
Alors, Tassili, t'as fait des difficultés ou pas ?
Non. J'étais pour. J'avais jamais aimé Breton de son vivant et ça s'est pas modifié quand il a bavardé devant les araignées avec des poses de tribun maudit. Je cache pas que ça me faisait plutôt plaisir d'éliminer Breton.
Alors, tu as qu'à assumer ton crime horrible une bonne fois.
Je vous ai déjà dit que je n'ai rien à voir avec le décès de Breton. Les araignées s'en sont chargées. Elles ont appliqué. Et elles étaient sans dessus dessous. Elles descendaient de partout. Il n'y en avait pas entre les dentelles effrayantes et la noirade de Breton. Mais ailleurs, elles étaient partout. Le discours de Breton, elle s'en foutait peut-être, mais qu'il fasse le gigoto sur une noirade, alors ça, ça leur plaisait pas du tout. Elles sont allées jusqu'à Breton et elles lui ont arraché son masque. Son visage en peau de Breton et une jambe. Ah, c'était pas beau à voir.
Et si on faisait la reconstitution de ça?
Personne voudra jouer le rôle de Breton. Qui c'est qui veut terminer unijambiste? Qui c'est qui veut qu'on lui décolle la peau du visage jusqu'à plus soif? Il y a des volontaires? Romanov, tu veux pas jouer Breton?
Ah non, pas moi, je suis trop petit. Et il pleut.
Bon, c'est ce que je pensais. Pas de reconstitution de ça.
Dommage, ça aurait donné du piquant à la séance.
Des piquants, ça, des piquants, elles en avaient. Des piquants et des crochets. C'était pas beau à voir comment elles s'en servaient. Breton avait même plus de bouche pour hurler. Il avait encore de l'existence dans le ventre et dans son autre jambe, mais il hurlait plus. J'ai reçu son cri de tête en tête. « Breton, appelle Tassili !» qu'il criait. C'était pas beau à entendre.
C'est une histoire qui tient la route.
Eh ben pour moi, ça sent la farine.
Hé, vous deux, vous pouvez pas comme ça étaler les délibérations intimes du jury. C'est illégal.
C'est même suffisant pour que je réclame la cassation, votre honneur.
Tais-toi, Jeannot. Ferme ta grande gueule. Y a pas de cassation entre nous. T'as rien à réclamer.
Ben, moi, je réclame. Tu m'entends, votre honneur?
Qu'est-ce que tu te mêles de cassation, Mingroliane? Et m'appelle pas votre honneur.
Je réclame une suspension de séance.
Je croyais que tu t'étais rendormi dans ton coin après ton quart d'heure de célébrité à la radio. Pourquoi tu réclames une suspension?
J'ai une envie pressante. Tu dois pas être le seul. On pourrait interrompre les débats et se disloquer collectivement vers les cabinets.
Non, t'es pas le seul. Moi, personnellement, ça va, mais la louve a une sacrée envie de pisser. Allez, objection retenue. On va tous se transporter sur les lieux d'aisance. La séance est suspendue.
Chers auditeurs, comme vous venez de l'entendre, le procès s'interrompt pour des raisons physiologiques. Pratiquement tout le monde se dirige vers la sortie du réfectoire. Eh bien, profitons de cette suspension de séance pour écouter quelques minutes d'une émission qui a été enregistrée l'année dernière, mais qui recoupe tout à fait certains éléments qui reviennent régulièrement dans le procès Tassili, et en particulier la question des araignées. Il s'agit d'une table ronde organisée à l'occasion d'une exposition sur le futur de l'humanité dans le camp 547, qui est lui aussi rattaché au camp expérimental de la Drivna. Je vous en propose un extrait. Nous entendrons successivement l'animateur de l'émission, Yvon Celsius, matricule N114-765, puis le professeur Kislowski, diplômé en zoologie de l'université Babour 13, matricule R549, et enfin un invité, Monsieur Kim, matricule F679-089, qui se présente en tant que futurologue.
Alors, il y a quelque chose de fondamentalement étranger à nous, quelque chose qui envoie des signaux de danger et qui, à l'avance, refuse toute idée de contact, toute possibilité de sympathie. On éprouve du dégoût en face de rampants du genre mille pattes ou scorpions, du dégoût et de la peur, mais en face d'une araignée, j'ai nettement l'impression qu'un échange d'hostilité a lieu, un échange fondé sur une inquiétude radicale. Et lorsque j'essaie d'en chercher la source, j'ai tendance à croire que ce qui est en mouvement remonte non pas à une expérience personnelle, mais à quelque chose de génétique, inscrit depuis des dizaines de millions d'années, peut-être même des centaines. Est-ce que je me trompe, professeur Kislowski?
Il est difficile de répondre à votre question. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse interroger ainsi son patrimoine génétique. Et je ne pense pas non plus qu'on puisse trouver dans ce patrimoine des haines et des peurs qui datent de l'origine des espèces. Si, vous savez, il n'y a jamais eu aucune compétition entre les araignées et les mammifères, ni même entre leurs ancêtres respectifs. Je ne vois donc pas de raison à une inscription génétique archaïque telle que vous l'évoquez.
Ce n'était qu'une hypothèse de Béotien.
Laissez-moi parler. Cela dit, votre remarque est pertinente. Même nous, scientifiques spécialisés dans l'étude des araignées, nous avons à vaincre ce mouvement profond de rejet dont vous parlez. qui a manifestement des causes psychologiques, mais qui a aussi des racines tout à fait distinctes de notre expérience individuelle, des racines inscrites et, je dois l'avouer, assez inexplicables. Je dois l'avouer. Je ne sais pas à quel patrimoine interne cela appartient, mais il y a quelque chose. C'est indubitable.
Et on renvoie à des troubles psychiques, à l'arachnophobie, une phobie comme une autre, mais on dit qu'il est tout à fait possible de se soigner.
Non. Bien entendu, l'arachnophobie est un trouble extrêmement répandu, et il est soignable. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un phénomène différent.
Monsieur Kim...
Non, mais justement, c'est bien là le centre du problème. Professeur Kieslowski, nous sommes en train de parler d'autre chose que d'un déséquilibre mental. Non pas d'une phobie, mais d'une hostilité qui a des origines extrêmement éloignées dans le temps, d'après vous. Puisque vous cherchez des explications à l'ère primaire, au mésozoïque, au permien. Dans les temps où déjà des formes de vie très différenciées étaient confrontées les unes aux autres. Mais à mon avis... Vous faites fausse route. Ce qui est en jeu aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ici et maintenant, c'est du présent et pas du passé. On touche à la coexistence entre deux espèces intelligentes qui sont prêtes à se disputer le statut d'espèce dominante. D'une part, les humains qui sont entrés dans une phase de déclin avec, pour avenir pas très lointain, une disparition programmée. Et d'autre part, les araignées résistantes et intelligentes, capables de les remplacer à moyen terme.
Là, monsieur Kim, vous dites n'importe quoi. Si je peux me permettre.
Non, professeur,
si,
non, si,
mais pas du tout. Je crois que cette hostilité instinctive entre elle et nous vient d'une connaissance obscure qui nous terrifie et qui s'applique au futur, beaucoup plus qu'à l'ère mésozoïque. Nous voyons à la fois la proximité de notre disparition et cette substitution qui se prépare. Nous sommes jaloux de l'avenir des araignées. Nous sommes consternés par l'écroulement inévitable de notre espèce. Et bien sûr, à cela s'ajoute la détestation ancestrale dont nous parlons depuis le début.
Je ne vous suis absolument pas sur ce terrain. Oh. Puisque vous parlez d'espèces qui pourraient résister à une éventuelle extinction massive de la vie sur notre planète, pourquoi ne pas mentionner les fourmis, les cafards, les scorpions, et que sais-je encore? D'ailleurs, l'organisation collective des fourmilières est beaucoup plus prometteuse pour une domination future de la planète. Par exemple, en Amazonie, on a décrit des colonies d'araignées, mais elles ne sont pas représentatives de l'espèce. Alors, d'une manière générale, les arachnidés prônent l'individualisme. Enfin, je ne sais pas si elles le prônent. Ce que je constate, c'est qu'elles le pratiquent. Le collectivisme des fourmis a beaucoup plus de chances de s'imposer après la disparition de l'homme.
Non, vous citez le collectivisme des fourmis. Vous savez bien que toutes les expériences de collectivisme sur Terre ont échoué. Même si les fourmis devenaient provisoirement une espèce dominante, elles reculeraient vite devant la robustesse des araignées, devant leurs possibilités physiques et mentales supérieures. Aux fourmis ou pas, le collectivisme n'est pas une organisation terrestre viable. Ça a raté pour les humains. Ça ratera aussi pour les fourmis.
Bien, nous en resterons là. Merci, professeur Kieslowski. Merci, monsieur Kim, d'avoir accepté cet entretien. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine.